Olivier Bosset, bonjour.
Bonjour.
Luc Olivier, vous êtes pasteur pour l'Église protestante unie dans l'agglomération de Montpellier, sur le secteur Mérévigne à Cournanterral précisément. Et vous publiez un article pour l'hebdomadaire Réforme sur la question de la pandémie et du choix des responsables politiques d'avoir endetté les États et les générations futures. Alors, c'est Réforme qui vous a sollicité à ce sujet ?
En fait, Réforme, par rapport à tout ce qui s'est passé, toute la pandémie, le confinement et puis toutes les questions qui ont germé là autour, Réforme a lancé une rubrique en disant quelle est la place des chrétiens dans tout ça. Et plus que de critiquer les démarches politiques qui ont été prises, plus de prendre position, l'idée c'était de dire mais finalement... En tant que chrétien, comment est-ce qu'on aborde cette réalité qu'on n'a pas choisie ? Et donc, j'ai reçu un appel et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre par écrit quelques idées. Et en fait, ce qui m'a semblé déterminant, ce qui m'a inspiré, en fait, c'était de se dire être chrétien, ce n'est pas d'avoir nécessairement des réponses. Dans la situation actuelle. C'est pas de donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait faire, mais être chrétien, je crois que c'est une invitation à réfléchir à ce qui nous arrive. Et donc, quand on dit la place des chrétiens, je crois qu'elle est là. C'est d'alimenter une réflexion en disant la réalité telle qu'elle se passe autour de nous, nous ne l'avons pas choisie. Par contre, ce que nous pouvons choisir, c'est notre réponse, notre manière de faire face à cette réalité. Et là, il me semble que il y a, dans la spiritualité chrétienne, nous avons des ressources. Parce que Dieu n'est pas souvent présenté, d'après mes convictions, quoi, qui se sont forgées au contact des textes bibliques, mais il n'est pas présenté Dieu comme étant celui qui nous donnerait un plan de relance.
Absolument. On va y revenir, les collègues.
Voilà. Mais qu'au fond, ouais. dans toute cette spiritualité chrétienne, nous avons des ressources qui peuvent alimenter notre réflexion. Et je crois que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui de stimuler une réflexion avant de tout de suite mobiliser les gens dans une action.
Et d'autant que vous, Luc-Olivier Bosset, vous êtes non seulement chrétien, mais vous êtes pasteur.
Et pourquoi vous faites la différence?
C'est vrai, suis-je bête? Mais parce que vous ouvrez votre Bible.
Bon, j'espère que je ne suis pas le seul quand même.
Voilà, c'est ça. Et vous ouvrez votre Bible précisément dans deux livres de l'Ancien Testament, deux prophètes.
Oui.
Précisément, dans cet article-là, pour cet article-là en tout cas, Jérémie et Ésaïe. Ceux-là en particulier vous ont donné des réponses à au questionnement de Réforme, du coup.
J'aurais envie de dire, c'est pas un hasard que j'ai choisi deux figures bibliques qui sont des prophètes. Parce que les prophètes sont des personnes qui, dans une situation de crise, ont osé risquer une parole. Et donc, en fait, ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que vous n'avez pas qu'un seul type de discours. Vous avez une multitude de formes littéraires qui sont rassemblées dans différents livres, et à la fin, ça donne une immense bibliothèque. Et donc, vous avez des discours de sagesse, vous avez des narrations, vous avez aussi des discours portés par des figures qu'on appelle les prophètes. Prophète, l'étymologie, c'est celui qui se tient devant. C'est celui qui ose une parole qui ne cherche pas l'appui des autorités déjà en place, mais qui, pour prononcer cette parole, va puiser dans des convictions, dans des ressources personnelles, et ose affronter, ose déstabiliser, critiquer les institutions ou les discours établis. Donc, la figure du prophète me semblait intéressante. Et alors, dans ces livres prophétiques, prophète, c'est pour dire que c'est pas celui qui prévoit l'avenir, mais c'est plus celui qui ose interpeller la situation actuelle, les personnes qui vivent des situations de crise, ose interpeller pour nourrir un débat, nourrir une réflexion. Et alors, du coup, ça me semble être un des enjeux fondamentaux. Actuel, c'est de nourrir une réflexion. Il me semble que, on va y venir sur Ésaïe, Jérémie, mais il me semble que du côté de Aristote, il y a une phrase qui dit « Face à des situations qui nous dépassent, le fou affirme, le docte explique et le sage réfléchit. » Et en fait, j'aime beaucoup cette vision, c'est-à-dire de prendre le temps de la réflexion, et pas simplement une réflexion individuelle. Voilà, on est là les deux dans un studio radio, et puis bon, on coupe les micros, et puis on réfléchit. Pour moi, réfléchir, c'est une démarche communautaire. C'est quand le prophète élabore une parole, dit une parole, il a bien sûr, cette parole ne vient pas de nulle part, elle est inspirée ou elle a été mûrie dans le silence et tout, mais il la risque. Et puis dans les livres prophétiques, on voit aussi des choses qui évoluent, des perceptions qui évoluent. Et donc cette parole, elle se construit aussi dans le débat, dans une confrontation qui est des fois une confrontation ferme, forte. Par exemple, Jérémie sera emprisonné parce que le pouvoir politique ne supportait pas son discours. Mais ça peut être aussi un débat qui vient faire bouger cette parole, la faire mûrir, vient en révéler toutes les potentialités, vient ouvrir. Et ça, aujourd'hui, il me semble que c'est fondamental. Mmh. Il ne s'agit pas, dans cette situation, d'anathémiser celui qui ne pense pas comme nous. Il ne s'agit pas de dire, voilà, maintenant j'ai la solution, et puis il faut que j'accrie très fort, et puis plus je la crierai forte, plus j'aurai de followers sur Twitter, mieux elle sera relayée et portée. En fait, l'enjeu, il est de nourrir une réflexion. Et là, je crois que c'est la place aussi des églises. Les églises, parce qu'elles rassemblent, parce qu'elles peuvent rassembler des personnes d'orientation politique différente, parce qu'elles peuvent rassembler aussi des personnes de culture, d'origine différente, il me semble que les églises doivent être un lieu qui stimule une réflexion à la fois personnelle, mais une réflexion personnelle qui s'élabore communautairement. Parce que il nous faut des vis-à-vis, il nous faut des face-à-face pour nous révéler à nous-mêmes. Et donc, quand on dit la place des chrétiens, il me semble que les chrétiens, dans la situation actuelle, pour inventer des réponses qui soient à la hauteur des enjeux immenses et exceptionnels que nous avons à relever, eh bien que les chrétiens doivent proposer des espaces qui permettent aux uns et aux autres de mûrir une réflexion critique sur les discours que nous entendons, critique sur l'actualité aussi que nous recevons, constructive aussi. Voilà.
Alors oui, vous me parlez de débat, vous me parlez de vis-à-vis, vous me parlez de construire, et j'entends quand même une phrase que vous dites dans cet article qui est destiné à Réforme, qui dit cette phrase: la foi est cette retenue qui nous rend attentifs à l'interprétation des événements qui nous arrivent. Alors, moi j'entends dans cette phrase bien autre chose que des débats. J'entends plutôt une sorte de sagesse dont vous parliez tout à l'heure, une chose de retenue, de presque de méditation. La foi pour donner du sens.
Oui, alors c'est vrai que retenue, c'est aussi parce que, il y a des fois un emballement. Et aujourd'hui, je trouve que, à la fois, c'est une grande richesse, immense richesse, que d'avoir un accès facilité à un flux d'informations vaste. Et donc, ça nous donne une ouverture. Ça nous donne à percevoir, comme on voit déjà dans l'actualité, la question des violences policières aux États-Unis. On voit tout ce que ça a créé aussi comme mobilisation en France, mais dans d'autres pays. Il y a une proximité. Donc ça, c'est quelque chose de, vraiment une avancée. Simplement, quand je disais retenue...
C'est très beau d'ailleurs. Cette phrase, elle est magnifique. Cette retenue, pour moi, c'est cette retenue, entendre que, voilà, exactement ce que vous dites, qu'on n'est pas dans tout de suite une réaction, mais qu'on a ce temps-là d'arrêt.
Oui,
je trouve que c'est précieux, ça.
C'est ça, c'est d'avoir une sorte de césure, une sorte de... Enfin, de ne pas oublier de respirer avant d'agir. Et au fond, la foi est je trouve, par rapport aux figures bibliques, le prophète Ésaïe nous invite à cultiver cette retenue, c'est-à-dire la foi comme une interpellation en disant qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui arrive là, et au fond, la foi comme étant cette invitation à à voir comment est-ce que nous interprétons ce qui est en train de se passer. Et souvent, pour interpréter, on s'appuie sur des logiciels qui, par le passé, nous ont permis de forger des réponses aux... Voilà, où on compare, on fait des analogies. On dit, ah ben cette pandémie, elle nous rappelle la grippe espagnole.
On l'a dit tant de fois.
Mais oui, ouais. qui n'est pas d'Espagne d'ailleurs, hein, mais voilà. Ou bien la grippe d'Hong Kong. Voilà, donc on compare. Et au fond, pour moi, la retenue, c'est de dire comparaison, c'est important parce que ça nous permet d'éclairer quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est différent. Et donc, la retenue, c'est aussi pour écouter cette différence. Parce que dans la réponse que nous avons inventée, il y a aussi à prendre en compte aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir une information, on va dire, multiple, plurielle. Aujourd'hui, les réactions des gouvernements il n'y avait pas d'OMS à l'époque de la grippe espagnole, par exemple. Donc, voilà, ça a aussi des impacts. Et donc, de nuancer, de chercher la nuance. Et alors, justement, par rapport au prophète Ésaïe, cette retenue, elle s'explique, par exemple, quand il y a l'invasion des... Il y a, donc, dans le... Alors, dans le chapitre...
La Syrie ?
Oui,
c'est ça. Le royaume.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, au chapitre 10 de du livre d'Ésaïe, on voit justement le prophète qui... Au fond, qui réfléchit à cette réalité, la Syrie, qui était un empire tout à fait, guerrier, hein, avec une armée importante et tout, et qui est en train d'envahir Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, les catégories qui pouvaient être utilisées, c'était de dire, la divinité assyrienne est plus forte que la divinité israélienne, et que du coup, c'est justement la preuve que la divinité israélienne, elle n'est pas crédible. Ça pouvait être aussi de dire, mais non, il faut galvaniser les troupes israéliennes et il faut montrer que justement là, maintenant, il en va d'une réaction qui doit être la réaction des preux chevaliers, des fidèles chevaliers israéliens contre les païens qui osent. Et en fait, ce que fait Ésaïe, c'est d'un tout autre ordre. Il dit, finalement, dans cette situation historique, derrière le roi d'Assyrie, on peut voir aussi un mouvement de l'histoire qui n'est pas étranger au Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, il ne faut pas le penser en termes claniques, tribal, mais le Dieu d'Israël, c'est celui qui a créé le monde. Et donc, c'est le Dieu qui n'est pas la propriété d'une tribu, mais c'est un Dieu beaucoup plus universel que cela. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et si nous interprétons les événements à partir de cette nouvelle représentation de Dieu, vers quoi ça nous oriente? Et là, je trouve magnifique parce qu'au chapitre 10, Ésaïe dit, au fond, regarde ce que... réfléchis à la manière dont tu auras à répondre de cette situation et peut-être que il y a là l'occasion de vivre un attachement plus fidèle, plus profond à ce Dieu auquel tu crois, mais sans enfermer ce Dieu dans une vision tribaliste, dans une vision communautariste. À quelque part, affine ton attachement à ce Dieu-là et n'en fais pas un attachement de clocher ou de parti, mais dépasse ça, ancre-toi plus profond. Et donc, ça ne veut pas dire que les Assyriens, quand ils ont envahi Israël, ils l'ont fait dans cette optique-là, en se disant « Oh, on aimerait que les Israélites soient plus ancrés dans leurs convictions, qu'ils s'ouvrent à une spiritualité plus universelle et tout, donc on va les envahir, on va tout détruire, et puis comme ça... » C'était pas leur intention. On est d'accord. Mais le prophète, il interprète ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Et il dit, au fond, cher Israël, regardez sur quoi repose votre confiance et apprenez à ancrer votre confiance dans quelque chose qui est plus profond, plus solide, plus stable une idée que Dieu est dans une institution telle que vous l'avez construite. Non, Dieu, il est au-delà de tout ça.
Mmh. Donc voilà, vous apportez là, vous avez évoqué ici la question de la foi, finalement une foi qui rend attentif à l'interprétation des événements. Vous évoquez ce Dieu dont on fait, finalement vous déplacez un peu hein, ce Dieu-là. Et j'ai aussi le sentiment que dans votre texte, vous vous adressez à ceux qui pensent que Dieu est un Dieu qui agit. Et là, vous nous montrez que ce n'est pas seulement ça, ou pas nécessairement ça, mais que c'est bien d'autre chose. Vous l'avez un tout petit peu évoqué maintenant, mais quand vous dites « Dieu agit », j'ai l'impression que vous donnez une réponse aux croyants qui pensent, qui disent que Dieu agit. Et j'ai l'impression que pour vous, cette expression est énervante.
Alors, énervante, non, mais je trouve qu'elle est explosive.
Explosive, ouais.
Oui, parce que, alors ça c'est aussi une caractéristique d'aujourd'hui, la pandémie... Nous ne l'avons pas interprété de manière, publique. Nous ne l'avons pas interprété selon des catégories religieuses. Il n'y a rien à voir avec les pandémies du Moyen Âge, où les pandémies du Moyen Âge étaient interprétées, d'après ce que je connais, avec des catégories religieuses, c'est-à-dire c'était un signe qui nous était venu d'ailleurs et que donc ça a développé aussi une piété parce que démunis de comment est-ce qu'on allait endiguer la peste, eh bien il manquait de moyens pour interpréter la peste selon des critères scientifiques, des critères médicaux ou biologiques pour essayer de comprendre le fonctionnement de la peste, et donc du coup on interprétait ce dans des catégories un peu magiques. Et donc, ça alimentait une piété où il fallait justement avoir des pratiques.
Puis la religion donne une explication, finalement.
Et alors, aujourd'hui, on pourrait se dire, la religion, elle doit donner une explication. Mais on voit bien que ça ne marche plus, ça ne tourne plus, ça ne fonctionne plus ainsi. Parce que ce serait entretenir aussi la vision d'un Dieu qui aurait envoyé cette pandémie pour... si je reprends les catégories d'Ésaïe de manière brute, pour provoquer une purification dans la foi des croyants d'aujourd'hui. J'ai entendu, pas plus tard que dimanche dernier, en allant acheter mes légumes...
À 7 ?
Non, pas à 7, c'était ailleurs, mais le marchand de légumes qui s'affiche comme croyant, comme chrétien et tout, et il dit il y a des personnes qui sont revenues dans notre communauté. Alors là, il faisait référence à une église, je ne sais pas exactement le nom.
On ne va pas le dire, d'ailleurs.
Non, mais voilà, une communauté. Et en fait, cette crise nous a fait... Il y a certaines personnes qui sont revenues parce qu'ils ont perçu que Jésus allait revenir. Et donc, on peut comprendre tout ce qu'il y a comme inquiétude, comme angoisse là derrière. Parce qu'effectivement, quand un phénomène de pandémie là, qui provoque des déséquilibres, ça crée une angoisse par rapport à l'avenir, une incertitude, nos points de repère habituels sont chamboulés et tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette angoisse? Et là, la religion pourrait être une sorte d'appui, de béquille, et Dieu pourrait surgir comme une sorte de référence, un totem qui viendrait nous... sur lequel on pourrait s'adosser, et puis Dieu agit, Dieu conduit... Voilà. Et c'est là que je dis que c'est explosif, parce que à la fois on peut voir des surgissements comme ça de piété, mais en même temps on peut aussi contester tout cela, parce que ça nous satisfait pas. Et donc on pourrait dire non, c'est pas Dieu n'est pas derrière. Alors où est-ce qu'on le met ce Dieu-là?
Voilà.
Et en fait c'est ça ma question. Et c'est là que je voulais réfléchir à est-ce qu'on peut encore dire que Dieu agit ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait abandonner cette expression parce que justement on voit bien que les causalités peuvent s'expliquer. Le virus, il est venu d'un contact vraisemblable avec des chauves-souris, papapi, papapa. Et donc
Vous préférez une autre expression,
oui,
qui identifierait ce Dieu. Et vous parlez d'ailleurs de Dieu comme d'un symbole.
Oui, mais parce que le symbole, il faut pas... Alors, le symbole, c'est pour dire que Dieu est un mot qui nous renvoie à quelque chose d'autre. Et que le symbole fonctionne quand nous sommes renvoyés à un mystère. Et que si nous réifions le symbole, c'est-à-dire que si nous disons, en fait, le symbole dit exactement ça, et que nous pensons avoir tout compris du symbole, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que nous le réifions, c'est-à-dire que nous enfermons notre sens, nous ne laissons pas évoluer, mais nous l'enfermons dans une représentation. Et à ce moment-là, le symbole, à mon avis, meurt. C'est-à-dire qu'il meurt étouffé. Le symbole, il peut aussi mourir parce qu'il ne parle plus aux contemporains. Et donc, quand j'avais envie de revisiter cette expression, et on va y venir parce qu'en fait, je crois que c'est ça que vous voulez me faire dire.
J'attends.
Vous êtes patient.
Attention, vous n'avez pas tout le temps devant vous.
Oui. Mais en fait, quand on dit Dieu agit, pour que ça parle, pour que ça nous en renvoie vers quelque chose d'autre, eh bien, je crois qu'il nous faut aussi revenir aux écrivains bibliques et de voir que, par exemple, les prophètes, les fameux prophètes dont on parlait tout à l'heure,
Ésaïe, Jérémie,
Ézéchiel et tout ça, ils ont eu le trait de génie de dire il y a eu, à un moment donné de l'histoire d'Israël, une sorte de période d'accomplissement, on va dire ça comme ça, où des institutions religieuses, le temple, le pouvoir politique, mais surtout le temple, ont été établies. Et en fait, il y avait une façon de dire que la présence de Dieu était symboliquement représentée dans le temple qui était construit. Or, le temple, quand les Assyriens viennent, et puis après, en plus, les Babyloniens, le temple, à la fin, il est détruit. Il n'y a plus rien, zéro, nada. Il n'y avait que des ruines. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de Dieu. Eh bien, la force des prophètes, c'est de dire non, justement, ne réifiez pas le symbole. C'est-à-dire, ne cherchez pas Dieu dans les décombres de tout. Mais Dieu, il est ailleurs. Et donc, les prophètes, ce sont ceux qui ont tenu une parole pour nous ouvrir à cet ailleurs. Et quand on dit cet ailleurs, eh bien, les prophètes, c'est au fait, par exemple, Ézéchiel dira que la présence de Dieu accompagne le peuple dans l'exil. C'est une manière symbolique, là aussi, de dire que là où ils vont, peu importe, eh bien, l'Esprit de Dieu les gens peuvent être rejoints par lui, peuvent être portés, alimentés par lui. Et donc Dieu, là, c'est plutôt une ouverture. C'est plutôt de pas le chercher dans les décombres fumantes, mais c'est plutôt dans cette ouverture qui nous invite à interpréter la réalité et à retrouver dans cette nouvelle réalité, eh bien, un appel, une adresse, une énergie pour reconstruire quelque chose. Et là, Dieu, il n'est pas du tout localisé, c'est plutôt une étincelle, c'est plutôt un... Alors on est dans la période de Pentecôte, hein, c'est plutôt un souffle, c'est plutôt l'esprit qui émerge et qui fait que, j'ai envie de dire, Dieu, c'est peut-être l'idée qui nous vient. Quand on est dans une impasse, c'est l'idée qui nous vient qui nous redonne envie de nous mobiliser et de repartir dans le quotidien. Et alors là, quand on dit Dieu agit, eh bien aujourd'hui, j'aurais envie de garder l'expression, mais pour dire Dieu agit lorsque dans cette pandémie, alors que j'ai de l'angoisse, alors que je me pose plein de questions par rapport à l'avenir, alors que j'ai peut-être perdu mon travail, alors que je suis peut-être en tant que responsable d'association, d'entreprise, je croule sous les complications et les difficultés, eh bien Dieu est cette idée qui me vient des fois et qui me donne le cœur à l'ouvrage ou cette rencontre que je fais qui m'aide à prendre du recul par rapport à la situation et qui me fait voir les choses sous une nouvelle façon.
Donc, vous ne voulez pas donner votre expression, de belle expression qui est dans votre article. Dieu est l'appel de la vie.
C'est ça, c'est ça. Et au fond, de dire que Dieu agit, c'est que l'appel de la vie, aujourd'hui, persiste. On pourrait se dire, justement, tout est foutu. C'est tellement compliqué. On entend ces discours alarmistes, et ils ont raison d'être alarmistes par rapport à la crise écologique. Et j'entendais un scientifique l'autre jour qui disait « Cette pandémie, c'est une escarmouche. » Alors, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que, waouh, ce qui peut arriver. Et donc, tout ça, ça peut être aussi démobilisateur. Ça. On peut être aussi déçu des politiques. J'entends aussi ces personnes qui sont en colère et qui disent « Le gouvernement, il nous a fait quand même aller dans les bureaux de vote alors que le lendemain, on était en confinement. Et donc, moi, j'ai chopé le Covid parce que j'étais assesseur dans un bureau de vote. Et donc, je porte plainte contre le gouvernement. » J'entends cette colère. J'entends.
Légitime.
Et alors, justement, la question, c'est « Ok, j'entends cette colère. » Simplement, quand on dit l'appel de la vie persiste, c'est aussi, moi j'entends, de dire nous ne sommes pas condamnés à la colère, à entretenir une colère, à chercher toujours le coupable. L'appel de la vie, c'est peut-être aussi un appel qui nous invite à là, quand j'entends vie, j'entends quelque chose qui permet à ce que une piste d'avenir, on ouvre l'avenir, on garde l'avenir ouverte. Et donc, l'appel de la vie, c'est aussi celui qui nous invite à ne pas simplement cultiver la colère, ressasser la colère, ou bien de nous immuniser contre toute nouveauté en cultivant la désolation. Mais l'appel de la vie, c'est cette ouverture qui nous invite à avancer vers demain. Et quand on dit Dieu agit, personnellement, je crois qu'il est de cet ordre-là.
Et pour compléter ce que vous dites, j'ai retenu que pour vous, cet appel de la vie, c'est aussi poser des actes. Répondre à l'appel de la vie, c'est poser des actes.
Oui.
On rentre aussi quand même dans une matérialité concrète, terrestre. On peut répondre à cet appel de la vie que vous mettez avec un grand V, mais en même temps, on est des hommes et des femmes sur Terre.
Oui.
Donc il faut quand même, à un moment donné, poser des actes, comme vous le dites très bien, agir en adéquation aux préoccupations de notre siècle. Jérémie et Ésaïe ont donné des... Voilà, ils ont dit, on va faire comme si, ou bien peut-être les Israéliens ont fait comme si, comme ça, mais nous, on vit au 21e siècle. Donc, on va poser des actes différents, mais on va quand même poser des actes pour répondre à l'appel de cette vie.
Oui, oui, c'est
ça. Je trouvais ça très, très juste. On n'est plus dans le... Il y a cette idée-là, mais cette idée-là, elle a besoin d'actes.
Oui.
Et c'est là où elle nous rejoint, je pense.
Mais merci d'attirer l'attention là-dessus, parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on pourrait dire que c'est quelque chose de très intellectuel. Hein.
C'est ça, idéaliste.
Idéaliste, voilà. Bah, alors,
philosophique, théologique, voilà, tout ce que vous connaissez par cœur, Luc-Olivier Bosset.
Et c'est ça, du haut de la chair, on plane.
Mais... Avec votre robe. Oui, mais c'est ça. Mais non, vous dites bien au-delà de ça.
Oui,
vous dites, vous posez des actes.
Les actes. Et je crois que c'est fondamentalement ça qui est important. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 32, le contexte, alors il est aussi la crise, c'est-à-dire que dans quelques... c'est imminent, les Babyloniens vont envahir ce qui reste de Jérusalem. Et en fait, là, Jérémie décide d'acheter un champ. Et en fait, ouais, le contexte, c'est une crise aussi économique. Plus personne n'achète.
Quelle folie!
Et lui, il achète un champ. Mmh. Et en fait, c'est un geste. Donc, il rachète le champ à son oncle et tout. Et il a cette phrase. Il dit car ainsi parle le Seigneur, on achètera encore des maisons, des champs, des vignes dans ce pays. Et donc, en fait, c'est un symbole. Ce qu'il veut faire là, c'est un symbole. Il dit il y aura un avenir. L'heure, elle est à la désolation. L'heure est sombre, mais en achetant ce champ, je montre que, eh bien, quelqu'un pourra continuer à cultiver ce champ. Donc, il ouvre un avenir. Hein. Luther, il disait, si on m'annonçait la fin du monde pour demain, aujourd'hui, je planterais un pommier. C'est du même ordre. C'est-à-dire que, aujourd'hui, posons des actes qui ouvrent un avenir, qui ouvre une espérance. Et alors, je me disais, dans ce contexte de pandémie, on a dû prendre des décisions où on a augmenté la dette publique des États. Bon, c'est ce qu'il fallait faire, effectivement, pour éviter que ce soit pire. Mais on vit à crédit. C'est-à-dire que nos ressources économiques, eh bien, on a emprunté, on vit à crédit. Nos ressources écologiques aussi, on vit à crédit. Vous connaissez le fameux jour du dépassement. Mmh. Chaque décennie, eh ben, il se rapproche
du 1er janvier.
Oui, c'est ça. Donc, on consomme plus que la Terre ne peut fournir en une année. Ouais. Donc, on vit à crédit. Eh bien, dans ce contexte-là, osons poser des actes, parce que c'est des actes profondément anxiogènes quand on vit à crédit. On se dit, à un moment donné, on arrive... Et par rapport aux générations qui viennent, bien, osons poser des actes un peu fous, des actes qui ouvrent l'avenir. C'est-à-dire, comme Jérémie, dans un contexte sombre, a acheté un champ, aujourd'hui, quels vont être mes actes, qui sont l'équivalent d'acheter un champ, de planter un pommier, qui donnent une espérance.
Et je crois à nos enfants, à nos générations futures.
Et tout ça. Quel investissement j'ai envie de faire, de mon temps, de mon argent, et qui ouvre une perspective. Et je crois que l'enjeu, eh bien, il est de que nous puissions réfléchir chacune et chacun et puis poser de tels actes dans la société.
Merci Luc-Olivier Bosset. Je le répète, vous êtes pasteur à Cournon-Terral et vous avez écrit cet article pour l'hebdomadaire Réforme. À bientôt.
À bientôt.